Bien, Jessica, vous parlez du plateau. Oui, je vais servir avec elle là-bas. J'habite pas encore le plateau Mont-Royal, mais plusieurs du projet vont habiter le plateau. Et des fois, on oublie qu'est-ce que ça veut dire, mais une vie urbaine, ça ressemble ceci pour faire l'épicerie. On descend ces escaliers qui tournent, on se rend à la rue, on se rend à une station de Bixi, on prend son Bixi, on va à l'épicerie, on fait l'épicerie, on paie 2 $ pour la faire livrer chez nous. On revient en Bixi, on attend et l'épicerie est montée à notre marche, à notre palier. Et puis, c'est comme ça que ça se fait. C'est différent, hein? C'est la vie urbaine. Mais, comme Jessica disait, 100 000 personnes y vivent et on veut les voir, connaître et entendre les bonnes paroles du Seigneur Jésus pour le salut de leurs âmes. Ce matin, on est dans le livre de Sophonie. Alors, pour le trouver, il faut se rendre à l'évangile de Matthieu et puis reculer de 4. C'est le plus facile parce que quand on essaie de mettre les 12 prophètes dans l'ordre dans notre tête, on est tout mêlé. Alors, on y va avec l'évangile de Matthieu, on recule de 4 et on trouve le livre du prophète Sophonie. Qui a régné au temps d'un roi qui s'appelait Josias et qui a servi à cette époque-là. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble avant de commencer. Seigneur Jésus, je veux te prier que tu puisses, par ton esprit, agir comme celui qui console, qui fait du bien et qui encourage ce matin. Seigneur, donne-nous de pouvoir comprendre qu'au-delà du jugement, il y a quelque chose d'encore plus magnifique et plus grand. Puisses-tu nous donner de l'appliquer à nos vies toute la semaine et de vivre dans une joie qui vient de toi, grâce à ta parole ce matin, qui est enseignée au nom de Jésus-Christ. Amen. La fameuse première ligne d'un texte, tous ceux qui ont été confrontés à écrire un travail pour l'école souvent, et on a la page blanche, et là il faut commencer quelque part, puis on ne sait pas trop par quoi commencer. C'est donc difficile des fois de s'y mettre, et souvent c'est même pas la première phrase qu'on écrit en premier, elle apparaît plus tard dans notre travail. Sur Internet, on peut lire « L'écrivain se torture souvent sur la première phrase de son livre. Elle a une importance décisive pour le lecteur. » Il y a un prix qui s'appelle « Bulwer-Lytton ». C'est un prix que tu ne veux pas recevoir parce qu'il récompense chaque année la pire première phrase d'un roman. Quand même intéressant. Alors, quand tu es gagnant, tu n'es pas heureux. Et je me demande qu'est-ce que cette équipe d'analystes dirait de cette première phrase qu'on trouve dans le livre de Sophonie. Je ne sais pas si je peux lever un peu le lutrin. Je ne sais pas comment il fonctionne, lui, mais je vais l'aller. Hein. C'est un peu bas pour moi. OK, on va vivre avec ça. Alors, après les paroles d'introduction, on lit ceci. « Je supprimerai tout sur la surface du sol, oracle de l'Éternel. Je supprimerai les hommes, les bêtes, je supprimerai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les scandales avec les méchants, et je supprimerai les humains de la surface du sol. » Oracle de l'Éternel. Quel départ! Quel départ! Je vais supprimer tous les êtres humains, tous les animaux. Il ne restera rien, dit l'Éternel. Ce matin, j'aimerais qu'on parle du jugement et de son étendue. Mais on va parler aussi de la cause de ce jugement-là, en deuxième point. Et on va terminer avec l'élément que Dieu présente dans ce livre où certains seront épargnés du jugement. On lit aussi un peu plus loin dans ce chapitre 1 par rapport à ce jugement, verset 14. Il est proche le grand jour de l'Éternel. Il est proche. Il arrive en toute hâte au bruit du jour de l'Éternel. Les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront le cor et la clameur contre les villes fortes et contre les tours élevées. Je mettrai les humains dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour du courroux de l'Éternel par le feu de sa jalousie. Toute la terre sera consumée quand il provoquera l'extermination, combien épouvantable, de tous les habitants de la terre. Quelle déclaration quand on y pense. C'est tellement dit avec une souveraineté, une autorité. Le 21 décembre dernier, on annonçait la fin du monde. Dans les mois qui ont précédé cette annonce, combien de moqueries et de fantaisies ont été dites à propos de cette fausse annonce. Bien sûr, lorsqu'elle s'est avérée fausse, puisqu'on est encore ici aujourd'hui, eh bien, d'autant plus la moquerie, d'autant plus la risée. Mais le dépôt laissé à chaque fois qu'une fausse annonce de ce jugement qui devait arriver, on diminue à chaque fois la foi dans cette véritable fin qui va venir un jour. C'est comme si, de plus en plus, on a crié au loup et lorsque la vraie chose arrive, on n'y croira plus. Mais Dieu est tout puissant, c'est ce que la Bible nous dit. Il est juge de sa création. Il est au-dessus de toute la création et il est là pour accomplir ses desseins. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, notre réaction possible à ceci est la suivante. Parfois, on est intimidé. On serait intimidé au travail lundi matin de lire ceci à nos collègues de travail. Dieu a l'air d'être méchant. Ça ne semble pas être le Dieu que les gens se sont imaginés au Québec, un Dieu d'amour qui pardonne tout. Dieu a l'air méchant, alors on cherche à diminuer cette réalité. On ne veut pas la montrer, on veut soit la cacher, on veut en diminuer la sévérité. On préfère dire que Dieu nous aime. Et qu'il est bon, ce qui est tout à fait vrai, mais beaucoup plus accepté et toléré dans notre culture. On veut soit diminuer l'ampleur de notre péché pour penser que ça concerne d'autres personnes, ou on veut diminuer le côté réel de ce texte, mais on est souvent intimidé par cette annonce d'un jugement où Dieu élimine tous les humains de la terre. Avant l'âge moderne, on comprenait qu'il existait en dehors de soi un ordre moral qui nous transcende. Mais depuis l'ère moderne, une inversion s'est produite. Au lieu de croire en un ordre surnaturel, on a décidé que l'ordre suprême était celle que l'on voyait et touchait. Ainsi, l'auteur C.S. Lewis nous dit, « Au lieu de modeler nos désirs pour qu'ils s'adaptent à la réalité, nous cherchons à modeler la réalité pour qu'elle s'adapte à nos désirs. » C'est ça qui a été changé. Et c'est pourquoi qu'un texte comme on lit ce matin nous intimide et nous dérange. Nous croyons si fermement aujourd'hui à nos droits personnels que l'idée d'un être extérieur en tant que juge devient une notion complètement répulsive. Cette idée est d'ailleurs très culturelle à notre culture. Dans d'autres cultures, ce chapitre fait plein de sens. Ce qui fait moins de sens en ouvrant la Bible, c'est les passages où Jésus dit de tendre la joue à celui qui te frappe. Ou les passages qui demandent de pardonner et d'aimer ses ennemis. Ce sont ces passages-là qui sont complètement répulsifs pour eux, dans leur culture. Il est normal que peu importe la culture dans laquelle on vit, il y a des vérités d'un Dieu transcendant qui viennent nous déranger et parfois même nous déplaire. Pourquoi, de toute façon, sommes-nous encore outrés par les génocides, par les attaques terroristes comme on a eu récemment à Boston, par la pédophilie? Parce qu'il y a une notion en nous de justice qui est universelle. Il y a en nous une capacité de comprendre que le mal doit être jugé. Et lorsqu'il est jugé, une punition doit être offerte pour que le mal puisse être traité avec justice. Mais on oublie cela. On l'associe à des domaines très éloignés de nous, mais on réalise qu'en réalité, en lisant Sophonie, c'est beaucoup plus répandu qu'on peut le penser. Il y a une notion de justice dans des êtres aussi limités et pécheurs que nous, d'autant plus dans un être surnaturel, transcendant, qui est Dieu lui-même. Il faut faire un peu de recul pour bien comprendre Sophonie. Voici un peu le portrait global de la Bible en quelques phrases pour comprendre l'histoire qui est devant nous ce matin. Dieu nous a créés, la Bible dit. Il a permis que tu respires aujourd'hui, que tu vives, que tu manges, que tes cellules fonctionnent. Si Dieu voudrait, tes cellules actuellement ne fonctionneraient pas. Si tu es là, tes cellules fonctionnent. Tu es debout, tu t'es levé ce matin pour fonctionner. C'est Dieu qui permet de combler à des milliers de choses que tu as besoin. Le soleil, la pluie, tout cela pour que tu puisses manifester que Dieu était bon et merveilleux. Mais rapidement, cet objectif initial s'est arrêté, a été remplacé par une vie vécue pour ton bien à toi, sans le Créateur. Avec une grande surprise, on apprend dans les Écritures que Dieu ne détruit pas les rebelles. Non, il attend plutôt de révéler sa gloire autrement que par le jugement. Il choisit de faire éclater sa gloire d'une autre façon avant de révéler sa gloire finale dans le jugement dernier qu'on a lu ce matin lorsque Dieu va éliminer tout être vivant. Autrement dit, l'expression québécoise qui dit « on vit sur du temps emprunté » est tout à fait vrai. On vit sur du temps emprunté. On vit sur du temps que Dieu a permis pour se révéler, on va voir comment au chapitre 3 tantôt. Cette vision des choses change tout. Dieu s'est dévoilé non seulement à travers ce qui aurait été tout à fait normal dans sa justice, mais on va voir qu'il y a aussi une facette de sa gloire qui se révèle autrement. La cause de ce jugement-là, deuxièmement, ce matin, en une seule phrase, et elle est très claire dans le livre de Sophonie que j'ai pas le temps de tout parcourir avec vous ce matin, elle apparaît en une seule phrase, cette cause, avoir remplacé Dieu par autre chose. Avoir remplacé Dieu par autre chose. Comme si autre chose pouvait remplacer Dieu. On a remplacé l'honneur réservé à Dieu par autre chose. Et comment? Bien, vous voyez, dans la phrase suivante, la réponse à la question suivante nous donne le résumé de Sophonie. Qu'est-ce qui me donne le bonheur? Eh bien, on ne répond plus Dieu. Si on répond autre chose à cette question, on a remplacé Dieu par autre chose, parce que c'est la source du vrai bonheur. C'est la raison pour laquelle on a été créé, que notre bonheur se trouve dans notre Créateur. Dans Sophonie, et encore aujourd'hui, l'être humain est tenté de mettre sa confiance en ce qui est sur sa route et qui promet bonheur et prospérité. On vous présente quotidiennement, dès que vous ouvrez les yeux, plein d'objets créés, de choses créées, de personnes créées qui vous promettent bonheur. Dès que vous ouvrez les yeux au Québec, à travers la télévision, à travers une publicité, à travers quoi que ce soit, il y a quelque chose que vous êtes présenté comme étant la source de votre bonheur. Aujourd'hui, si vous avez cette chose-là, vous allez être heureux. Et on achète ce message-là et on remplace Dieu par quelque chose d'autre. Dieu avait fait un contrat avec Israël comme étant celui qui serait leur source de bonheur. Il a fait une alliance, une entente avec eux. Ils ont déchiré le contrat, ils ont brisé le contrat. Un peu comme si vous preniez votre alliance de mariage, vous la mettez de côté et vous entrez dans la vie en disant « Je rejette le contrat que j'ai fait avec toi. » Et pendant des années, Dieu est patient, mais leur annonce que cette rupture, cette injustice doit être traitée avec justice et méritera une punition. Vous savez, dans le livre de Sophonie, on retrouve différents types lorsqu'on le lit, que je vous résume en trois catégories ici ce matin. On retrouve ceux qui vivent avec nonchalance, comme si Dieu n'était pas souverain, comme si Dieu n'était pas là. Au courant de leur choix, de leur vie, comme si Dieu ne voyait pas et ne savait pas. Ils vivent leur vie comme des personnes nonchalantes par rapport à l'existence de Dieu. Il y a ceux qui ont, au contraire, choisi un syncrétisme, c'est-à-dire ils continuaient de prier l'Éternel, mais ils avaient ajouté sur leur tablette tous les autres dieux pour être sûr que le package deal total leur donne la bonne chose. Ils ont un amalgame. Ils étaient religieux et spirituels à l'époque de Sophonie, mais en choisissant de placer Dieu à la même égalité que d'autres dieux, ils venaient de détruire leur foi. Ils venaient de rejeter l'Éternel, car l'Éternel était le seul vrai Dieu. Et il y avait ceux qui, à l'époque de Sophonie, se sont tournés vers leur bien matériel. Ils vivaient pour le monde et les produits de consommation qui leur étaient donnés. Et ça les a amenés à l'époque, les riches avaient un mépris et ils méprisaient les pauvres. Il y avait un clash entre les riches et les pauvres qui étaient maltraités par ceux qui avaient de l'argent. Et ceux qui avaient de l'argent vivaient pour ce que leur argent, l'illusion de leur argent, leur donnait avec cette illusion que l'argent est le Dieu qui règle mes problèmes. Tout cela se résume au chapitre 2. Je vous fais le résumé du chapitre 2 par le verset 15, si vous voulez lire avec moi. Et je trouve ça un verset tout à fait fascinant. Vous êtes avec moi? OK. Chapitre 2, verset 15. Ici, il parle de la ville de Ninive, parce qu'il fait une liste de différentes villes au chapitre 2, mais je trouve que celle de Ninive résume si bien un peu tout le chapitre et notre situation actuelle. Voilà donc, dans cette ville, dans ma traduction, c'est écrit « ville d'amusement ». Voilà donc, dans cette ville d'amusement qui s'installe dans la sécurité et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. C'est pas fascinant comme verset? Voici cette ville d'amusement qui est plongée dans cette sécurité, du moins apparente, et qui dit en son cœur, « Moi et rien que moi. » C'est tellement d'actualité que je n'ai pas l'impression de lire la Bible. J'ai l'impression de lire l'actualité. « Moi et rien que moi. » Wow! Quelle image de l'être humain qui a remplacé Dieu par autre chose. Moi et rien que moi. Moi et rien que moi. Est-ce qu'on ne dit pas cette phrase-là avec d'autres mots trop souvent? Est-ce qu'on ne dit pas cette phrase-là dans nos vies, lorsqu'on est centré sur nous-mêmes, avec nos idoles dans nos cœurs? Vous savez, je vois à travers cela, la meilleure image que j'ai en tête, c'est la trappe à souris. Je vois la piège qui est là, avec un super de vieux cheddar, tu sais. Bien vieilli, là. Parfait à point, tu sais. Et là, la souris qui approche. Et là, elle voit le cheddar. Puis elle est convaincue qu'elle vient de trouver le snack ever, tu comprends? Ça fait 3 jours qu'elle marche dans les murs de ta maison. Et puis elle trouve, à part de la laine minérale, des fils électriques, elle trouve pas grand-chose, tu sais. Et là, elle voit le vieux cheddar. Mais dès qu'elle mange, elle réalise que c'était pour sa mort. C'est la même chose ici. L'être humain se croit en sécurité, croit qu'il a trouvé la formule à travers soit un système religieux ou un détachement total dans un monde rationnel ou dans ce vécu pour lui-même, une ville d'amusement et de consommation. Et il est convaincu qu'il a trouvé, en fait, il a trouvé ce qui mène littéralement à sa mort. Si on marche dans la rue, dans une ville où il y a le trafic, et que là, c'est une de ces journées de printemps où la neige est en train de fondre, et puis là, il y a ce qu'on dit dans les rues de la gadoue. Et là, toi, tu t'es habillé propre pour rentrer au bureau à 8 heures, tu es toute bien vêtue, et là, tu te tiens sur le bord du trottoir en train d'attendre l'autobus. Et puis là, il y en a un qui passe vite. Et là, splash! Là, t'es super joyeux. Hein? Puis tu bénis Dieu pour ce conducteur-là. C'est en pleine prière. Non, t'es complètement frustré. T'es choqué. T'es en colère. Parce que tu étais propre, puis là, on t'a sali. Contre ta volonté, tu étais toute sale là, dans ta tête. Et on est choqué. Mais en réalité, si je fais cette illustration-là, c'est pour montrer que dans nos têtes à nous, on pense que nous, on est tout propre et que ce monde vient nous salir. Mais c'est complètement faux. On est à l'intérieur de nous des idolâtres. On est déjà sale. Autrement dit, quand la voiture passe, on devrait dire « Ah, t'as rien sali, mon ami. Je suis déjà crotté. » Parce que, d'une façon ou d'une autre, dans ma vie, j'ai dit « Moi et rien que moi. » Dans ma façon de traiter les autres, dans ma façon d'agir, j'ai déclaré « moi et rien que moi ». Si vous avez été marié depuis quelques années, un jour ou l'autre, vous avez dit « moi et rien que moi. Dans la façon que vous avez traité votre conjoint, conjointe. Parce que c'est l'univers dans lequel on pense qu'on va trouver sécurité, paix et bonheur. Tournez avec moi dans le chapitre 3, verset 9. On a vu que le jugement a une étendue mondiale. Personne ne va être épargné. On a vu que la racine, elle n'est pas à l'extérieur de nous, mais elle est en nous, parce qu'on a remplacé Dieu par autre chose. Et la conséquence du fait qu'on est des êtres créés par Dieu, soumis au Créateur et au juge de tout, la conséquence, c'est un jugement et une destruction totale. Non seulement celui qui a mis la bombe à Boston, mais aussi toi et moi. Parce qu'on est des gens qui ont osé remplacer Dieu par quelque chose de créé. Quelle offense! Et on a souvent placé nous-mêmes par le fait que l'on vit pour que nous, on soit bien et que nous, on soit bien servis. Et souvent, à travers nos biens, on le voit, de la façon que l'on gère nos biens. Ce que ça dit, là, c'est moi et rien que moi. Nos fonds financiers que Dieu nous donne ici au Québec pour la plupart d'entre nous, à part quelques-uns, c'est de l'abondance. Hein? Et si notre Dieu, c'est moi et rien que moi, la façon de gérer cela va paraître. Et on va être affecté, ça va être visible. Et c'est tout un défi qu'on a de vivre dans l'abondance qu'on vit. C'est tout un test, c'est tout un élément. Ça peut être une bénédiction extraordinaire lorsque c'est investi pour le royaume de Dieu. On peut voir des églises se développer, grandir, embaucher des ouvriers, implanter des églises, envoyer en mission aux extrémités de la terre, envoyer, soutenir. C'est incroyable ce qui peut être fait. Et c'est ce que Dieu voudrait, je pense, pour les fonds qu'il nous donne à nous ici au Québec, aux Québécois. Sophonie chapitre 3, verset 9, un virage s'effectue et Dieu, dans une surprise totalement inattendue, va nous révéler une promesse. Il va nous révéler qu'il va faire quelque chose. Je sais que vous savez une partie de cela. Juste par le fait que ceux qui viennent régulièrement ici. Mais c'est dit d'une façon dans Sophonie qui est complètement... On reste bouche bée. Chapitre 3, verset 9. Dieu dit, tout de suite après le verset 8, là, « Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. » Alors, je rendrai purs les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, comme on a chanté ce matin, en lui rendant un culte unanime. C'est au jeu, c'est Dieu. Dieu va faire quelque chose pour que soudainement, les lèvres d'une certaine partie de cette création humaine puisse avoir leurs lèvres purifiées. Certainement ici, Sophonie est un contemporain d'Ésaïe, ou pas loin. Et Ésaïe, pour ceux qui se souviennent du chapitre 6, nous raconte cette histoire que là, lorsqu'il est dans la présence de Dieu et qu'il dit qu'il mérite la mort, et on prend un tison sur l'autel. Et à cette époque-là, l'autel, c'est l'endroit où on fait les sacrifices. Donc, de cet autel de sacrifice, un tison est pris et touche les lèvres d'Ésaïe et il est entièrement purifié. D'un sacrifice, il y a une purification. Et ici, Sophonie, dans ce même discours, « Alors je rendrai purs les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. » Et là, il dit un peu plus loin, « En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi. » Je dois faire une pause ici pour vous dire ceci. À l'époque où Sophonie écrit, le peuple d'Israël va être déporté à Babylone comme conséquence de ces jugements. Il va y avoir une guerre terrible où des milliers vont mourir de ce siège contre Israël. Le peuple de Dieu va être rudement mis à l'épreuve. Et au chapitre 1, verset 7, Dieu dit d'ailleurs au peuple de la terre, « J'ai préparé l'offrande. » Et dans ce cas-là, dans le cas de Sophonie, l'offrande, c'est le peuple d'Israël que Dieu livre aux nations étrangères pour qu'ils puissent être purifiés. Ils vont être jugés, mais parce que Dieu, dans sa grâce, n'est pas encore au temps du jugement final, un reste va traverser ce jugement-là, mais va en sortir purifié de ses idoles. Mais ce qui est fascinant dans ce qu'on va lire ensemble ici, c'est que Dieu va cette fois-ci dire, il va venir un temps où le sacrifice qui va être offert pour que les miens puissent être purifiés ne sera pas le peuple lui-même, mais un seul représentant du peuple. Et pour ceux qui connaissent l'Évangile de Jésus-Christ, nous savons que c'est le Seigneur Jésus lui-même. Tu n'auras plus honte de tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi, car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude et ils ne diront pas de mensonge et ils ne trouveront pas dans la bouche une langue rusée quand ils auront leur pâture et leur gîte sans que personne les dérange. Pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements. L'Éternel, lui-même, il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Le terme « sauveur » ici est très significatif. C'est un terme qui n'est pas associé à l'Éternel très souvent dans l'Ancien Testament. Et ici, Dieu fait une annonce. Un jour, l'Éternel lui-même portera le nom de « sauveur ». Parce que l'on sait aujourd'hui que lorsque Christ est allé à la croix, il a été lui-même l'offrande pour la purification de ceux qui lui appartiennent. Lorsqu'on lit chapitre 1 et 2 de Sophonie, on pourrait penser que Dieu est méchant. Non, il est juste. Mais au chapitre 3, on découvre qui il est vraiment. Celui qui devient lui-même l'offrande pour nous arracher de cette vie où on le vit moi et seulement moi, et qui mènerait à ma mort. Et le deal est complètement frappant parce qu'au temps d'Israël, c'est le peuple lui-même qui a été livré en offrande pour qu'il y ait une purification. Et là, cette fois-ci, c'est le Fils de Dieu lui-même qui est livré en offrande pour ma purification. C'est complètement époustouflant. Pensez-y. Vous allez chez un dealer automobile. Vous voulez un char neuf. Et là, le vendeur te dit, « Tu veux ce char-là? Prends-le, puis c'est moi qui paye. » Répète ça. C'est moi qui paye, puis c'est toi qui pars avec le char. C'est ça. Le jugement, c'était le mien. Le juste, c'était lui. Mais il a accompli l'offrande, le sacrifice pour que moi, je puisse être purifié alors que je méritais le jugement. C'est le deal du siècle. Tout est à notre avantage. Lui a fait le travail. L'Éternel est celui qui est le héros qui sauve. Je vais revenir à mes notes. Mais notez ce qu'on lit ici. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Le sens ici est fort probablement le suivant. L'œuvre accomplie par l'Éternel pour nous est tellement grandiose, est tellement magnifique, est tellement extraordinaire qu'il n'y a plus rien à dire. Tu fais juste regarder et t'es bouche bée. Dieu lui-même garde le silence devant quelque chose d'aussi extraordinaire. Et il dit ensuite, il aura pour toi une triomphante allégresse. Une triomphante allégresse. Dieu tripe de joie à la pensée de ceux qui lui appartiennent. Il pense à toi cette semaine, puis il est dans la joie. Lui, Dieu, trois fois saint, tout-puissant, pur, comme il n'y a pas de plus pur. Il pense à toi et il est dans la joie. Amen. Amen. Mon ami, vous ne bougez pas, vous ne faites rien. C'est pas possible. Nous, on part et on fait notre semaine. Pauvre de moi. Et on est lourd avec nos fardeaux. Et puis on se voit tout croche. Qu'est-ce que Dieu voit, lui? Il est dans la joie. Et son amour est sans mots à cause de l'œuvre qui a été accomplie par le Fils qui a été l'offrande pour toi. Et il a fait de toi un de ses enfants. Et lui, il voit l'œuvre avec la perspective de l'éternité. Et il nous dit qu'il est dans la joie. Amen. Non pas à cause du nombre de mes obéissances que je vais réussir à faire cette semaine. Non, c'est pas à cause de ça. Mais à cause de ce que lui a fait pour toi. Là, il se réjouit. Parce qu'il t'a donné une nouvelle identité, la Bible dit. Tu es maintenant en lui, couvert. et lui voit cette œuvre-là déjà accomplie dans ta vie, même si elle n'est pas encore là. Dans un sens atemporel, Dieu se réjouit en pensant à toi. Et ça, ça devrait t'amener dans la prière cette semaine et d'être tout simplement une expression d'un ami qui dit « flabbergasté ». J'aime ça, ça fait comme tout bizarre. Flabbergasté par Dieu. Et de tout ce que tu vas faire va provenir du fruit de cette adoration d'un Dieu aussi extraordinaire parce que le jugement était prononcé. Le jugement était éternel. Et tu avais toi aussi dit « moi et rien que moi ». Peu importe de la façon que ça s'est exprimé. Et Christ arrive comme un héros qui sauve. Vis cette semaine comme un rescapé. Vis comme quelqu'un que la condamnation à mort était déjà décidée. Je regardais un film hier où des gens avaient attenté à la vie d'Hitler et puis ils sont mis là sur le peloton parce qu'ils ont échoué puis ils sont fusillés. Vous étiez là, non? Sur le peloton, pour une mort éternelle. Et quelqu'un a pris la balle pour vous. Et là, tu vis comme un rescapé. Et Dieu se réjouit par l'œuvre qu'il a faite. Il se réjouit, même quand tu confesses, d'ailleurs, va, comme il a été dit ce matin, et confesse ton péché cette semaine, parce qu'à chaque fois que tu confesses ton péché, Dieu se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est lui qui a payé le prix pour ça et il a fait éclater sa gloire. C'est vraiment ça. Alors, va à lui. N'aie pas peur d'aller à Dieu cette semaine. C'est ce Dieu-là qui va te recevoir. C'est lui qui se réjouit. Et si tu ne l'as pas encore connu ce matin, va à lui. Avoue-lui tes fautes. Avoue-lui que tu as rejeté Dieu sous une forme ou une autre. Confesse et Dieu va, par la foi, lorsque tu lui demandes, te donner cette nouvelle vie où tu vas être en lui et il va se réjouir en toi, non pas sur la base de tes obéissances, mais sur la base de l'obéissance du Fils de Dieu pour toi. Va à Dieu cette semaine et si tu sens que c'est lourd, lève la tête, rappelle-toi la grâce et marche et dis-toi, si Dieu est dans le party, moi je vais être là aussi. Parce que Dieu se réjouit, lui, de ce qu'il a fait pour toi. Remplacer ce Dieu par quoi que ce soit m'avère être la pire des erreurs. Et je te pose la question avant de prier. Quel Dieu veux-tu? Prions. Seigneur, je veux répondre que je veux Jésus-Christ et personne d'autre. C'est ce Dieu, ce juge, mais qui est à la fois un héros sauveur, qui manifeste sa gloire par l'offrande du sacrifice qui purifie à ma place. Seigneur, c'est ce Dieu que je veux. Qui m'adopte, qui me prend dans sa main, qui spirituellement me cache en lui et qui se réjouit de moi pour que dans toute l'éternité, encore dans 1 000 milliards de 1 000 d'années, on dise « Gloire à l'agneau ». Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Et cette semaine, donne à mes frères et sœurs le réconfort que procure la joie de l'Éternel pour eux, afin qu'ils vivent libres, joyeux, confessant leurs péchés, avouant leurs fautes, mais restant dans la joie, parce que Dieu lui-même est silencieux lorsqu'il regarde cet amour. On t'en prie, fais cette œuvre de consolation en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.